VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 30 décembre 2021, en direct de Washington. Jean-Roger Billon
et Rosine Monezero.
On commence avec le sommet.
Le Niger expulse 8 ex-dignitaires du régime Hutu rwandais et responsable du génocide de 1994.
Le Soudan décrète un couvre-feu au Darfour après le pillage d'un entrepôt de l'ONU.
Au Kenya, bagarre à l'Assemblée nationale lors de débats sur une loi concernant les élections.
Le président américain Joe Biden s'entretient aujourd'hui avec son homologue russe Vladimir Poutine sur fond de tensions à propos de l'Ukraine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le Niger va expulser pour raisons diplomatiques 8 Rwandais, anciens dignitaires du régime Hutu, responsable du génocide des Tutsis en 1994, accueillis il y a peu en vertu d'un accord avec l'ONU signé le 15 novembre. Le point avec Gini Kapumbu-Villa.
Un arrêté publié par le journal nigérien Ahir Info, signé par Amadou Souley, le ministre nigérien de l'Intérieur, a annoncé une expulsion sous 7 jours des 8 Rwandais. 4 d'entre eux ont été acquittés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, et les 4 autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal onusien les avait condamnés. Naftali Yahishakiye, secrétaire exécutif d'Ibuka, principale association rwandaise de rescapés du génocide, souhaite que les expulsés retournent au Rwanda, même si le point de chute des expulsés n'a pas été divulgué. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, le mécontentement de Kigali serait à l'origine de cette volte-face des autorités nigériennes. Entre avril et juillet 1994, le génocide rwandais a fait quelque 800 000 victimes, selon l'ONU, majoritairement issues de la minorité Tutsi.
Le Bénin va renforcer son dispositif militaire pour tenter de mettre fin aux incursions de djihadistes venus du Niger et du Burkina Faso voisin, a annoncé mercredi le président Patrice Talon devant les députés à Porto Novo. Le 2 novembre, 2 militaires ont été tués par des djihadistes vers Porga, dans le département de l'Atakora, à la frontière avec le Burkina Faso.
La veille, des djihadistes avaient attaqué des militaires dans le département voisin de l'Alibori. Ces deux attaques djihadistes qualifiées de mercredi d'ignobles par le président Talon sont les premières reconnues officiellement par les autorités béninoises.
En Guinée, l'Alliance citoyenne pour la transition, ACT, partie intégrante des forces vives de la nation, propose une durée de 24 mois pour une transition réussie, indique un communiqué publié mercredi. La coalition regroupe plusieurs organisations dont l'Association des blogueurs de Guinée, Ablogui, Action Mine, Mouvement G+, OneUp Guinée ou encore Publier ce que vous payez. Réaliser la transition dans un délai de 24 mois est possible selon l'ACT, qui précise que la première année sera consacrée à la mise en place des organes de la transition, l'élaboration du projet de constitution et son adoption, aux réformes électorales et à l'enrôlement des électeurs.
Au Soudan, les autorités du Darfour ont annoncé hier un couvre-feu nocturne après que des groupes ont pillé un entrepôt du programme alimentaire mondial. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Selon les premiers rapports des Nations Unies, l'entrepôt d'El Fasher, pillé par des groupes armés inconnus, contenait 1900 tonnes de nourriture destinées à des centaines de milliers d'habitants de cette région du Darfour. Kardiata Lo Ndiaye, coordinatrice humanitaire des Nations Unies, affirme qu'une personne sur 3 au Soudan a besoin d'une aide humanitaire. Elle a appelé le gouvernement à intensifier ses efforts pour protéger et sauvegarder les locaux et les biens humanitaires. La recrudescence de la violence a forcé beaucoup de personnes à fuir leur maison au Darfour au cours de l'année écoulée. Les travailleurs humanitaires et les analystes attribuent cette situation aux factions armées se combattant pour des postes après la signature d'un accord de paix avec certains groupes rebelles fin 2020, ainsi que le retour des combattants de la Libye voisine. Le 1er janvier 2021, les casques bleus des Nations Unies et les soldats de l'Union africaine ont cessé les patrouilles avant un retrait total. La force nationale soudanaise, qui devait remplacer la MINUAD, n'a pas encore été déployée. Débuté en 2003, le conflit au Darfour a fait environ 300 000 morts.
Une bagarre a éclaté mercredi à l'Assemblée nationale du Kenya entre députés qui débattaient d'un projet de loi controversé sur les partis politiques à l'approche d'élections générales prévues en août prochain. Les précisions de John Lyndon.
Au moins deux députés ont échangé des coups et la séance a rapidement été suspendue par le président de la Chambre basse, selon des images diffusées par une télévision kényane. Un député, Bernard Koros, a été blessé dans la mêlée et a été vu avec du sang coulant sur le visage. Un autre a été expulsé par le président. « Je ne peux pas accepter d'être blessé comme cela au sein de la Chambre nationale, monsieur le président », a déclaré monsieur Koros, partisan du vice-président kényan William Ruto, ancien allié du chef de l'État Uhuru Kenyatta, avec qui il est désormais en conflit ouvert. La bagarre a éclaté après des heures de débats houleux sur un projet de loi amendant la législation sur les partis politiques et modifiant notamment les modalités de formation et d'enregistrement des coalitions à l'occasion des élections. Les opposants au projet soupçonnent le président Kenyatta et son ancien adversaire et désormais allié Raila Odinga de vouloir l'utiliser pour former une redoutable coalition en vue des élections générales prévues le 9 août.
Les proches de l'archevêque anglican Desmond Tutu mort dimanche ont assisté mercredi dans la soirée au Cap à un hommage à la figure de la lutte anti-apartheid. Des prières ont été dites par des religieux chrétiens, bouddhistes, juifs, musulmans et traditionnels africains. Les obsèques de Desmond Tutu sont prévues samedi à la cathédrale Saint-Georges au Cap.
Le public pourra se recueillir devant sa dépouille à partir d'aujourd'hui même. Une centaine de personnes seulement pourront participer à la cérémonie en raison du Covid. Après une incinération privée, ses cendres seront inhumées dans son ancienne paroisse qui, depuis lundi, sonne les cloches tous les jours à la mi-journée pendant 10 minutes en sa mémoire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont prévu de se parler au téléphone aujourd'hui pour discuter de divers sujets, dont l'Ukraine. Les précisions avec Jacques Aristide.
L'appel intervient 2 semaines avant des pourparlers entre Washington et Moscou le 10 janvier prochain à Genève sur les traités de contrôle de l'armement nucléaire et la situation à la frontière russo-ukrainienne où les Occidentaux accusent Moscou de masser des troupes en vue d'une éventuelle attaque. D'après un responsable de la Maison-Blanche, côté américain, il s'agit de proposer à la Russie une voie diplomatique pour sortir de la crise ukrainienne. Mais les États-Unis, qui demeurent profondément inquiets de la présence de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine, seront également préparés à répondre en cas d'invasion, toujours selon ce responsable. En amont de l'appel de ce jeudi, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, s'est entretenu hier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé le soutien sans faille des États-Unis à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine face au renforcement militaire de la Russie. Il s'agit du 2e entretien téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine en moins d'un mois. Début décembre, le président américain avait menacé son homologue de sanctions comme il n'en a jamais vu en cas d'attaque contre l'Ukraine.
D'après un haut représentant américain, le président Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine devraient discuter aussi du nucléaire iranien lors de cet entretien téléphonique prévu ce jeudi. Les chefs des délégations russes et américaines prenant part aux négociations sur le nucléaire iranien se sont rencontrés hier à Vienne, où s'est ouvert lundi un 8e cycle des pourparlers destinés à raviver l'accord de 2015, un objectif pour lequel Washington et Moscou disent être en coordination.
Ghislaine Maxwell, associée de Jeffrey Epstein, a été reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'inculpation la visant, dont le trafic des mineurs. Ghislaine Maxwell, âgée de 60 ans, était accusée d'avoir recruté et préparé 4 adolescentes pour Jeffrey Epstein entre 1994 et 2004.
La circulation simultanée des variants Delta et Omicron du coronavirus provoque un tsunami de cas, a déclaré mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus a de nouveau appelé à un partage plus équitable des vaccins contre le Covid-19, prévenant que l'accent sera mis sur le rappel vaccinal dans les pays riches et pourrait donc entraîner une pénurie de doses dans les pays pauvres.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné mercredi un massacre imputé à l'armée birmane après lequel il reste calciné d'au moins 535 personnes, dont deux employés de Save the Children, ont été découverts dans l'est de la Birmanie. Après ce massacre, les États-Unis ont renouvelé leur appel à imposer un embargo sur les armes à destination de la Birmanie.
À présent, la minute éco avec John Lindon.
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds vert pour le climat et l'Union européenne viennent d'accorder un peu plus de 28,2 millions de dollars à la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie. Selon l'agence Ecofin, cet argent devrait permettre à cette institution financière de soutenir la transition verte du Maroc. En Côte d'Ivoire, le groupe Cofina annonce la conclusion d'un nouveau partenariat avec la Banque néerlandaise de développement, partenariat qui lui permet de bénéficier d'un prêt de 5 millions d'euros. Cet argent devrait, selon l'agence Ecofin, servir à renforcer, à travers Finnel, son accompagnement auprès des MPME et des femmes de la chaîne de valeur manioc en Côte d'Ivoire. Apple a annoncé mercredi avoir placé en période d'essai une usine indienne de son principal fournisseur après une vaste intoxication alimentaire et des manifestations pour dénoncer les conditions de vie des ouvriers. L'usine, située dans l'état de Tamil Nadu au sud du pays, emploie plus de 17 000 personnes et fabrique des iPhones pour le marché indien et l'export, ainsi que des accessoires. C'était la Minute Éco avec John Lindon pour VO Afrique.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations qui approche est à moins de deux semaines du coup d'envoi. Le sélectionneur de l'Égypte, le Portugais Carlos Queiroz, a publié la liste de son effectif de 25 joueurs avec Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool, meilleur buteur africain de l'histoire de la Premier League, défendra bien les couleurs de son pays. En attendant sa libération pour le 3 janvier prochain, il participera d'abord au Boxing Day dimanche avec la réception de Chelsea. Au Cameroun, les Pharaons, logés dans le groupe T, rencontreront la Guinée-Bissau, le Soudan puis le Nigeria, qui vient de nommer José Peseiro comme nouveau sélectionneur des Super Eagles en regroupement à Lagos. Le Portugais, âgé de 61 ans, prendra l'équipe juste à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Au Cameroun, c'est bien Augustine Eguavone qui dirigera la sélection. Le technicien local avait remplacé le franco-allemand Kenneth Roll limogé au début du mois. Pendant ce temps, certaines sélections rencontrent déjà des difficultés dans leur préparation, notamment le Maroc et le Cap-Vert qui devraient s'affronter en amical. Programmé pour ce vendredi à Agadir, le match a été annulé. D'après les infos, les Lions de l'Atlas peinent à rassembler leur effectif. Pour l'heure, il n'y a que 15 joueurs qui ont répondu présents au rassemblement sur les 28 convoqués par le sélectionneur Vahid Halilhodžić. Côté requin bleu, la pandémie sévit déjà. Le défenseur Stopira a été testé positif au coronavirus et en même temps placé à l'isolement. Des cas positifs sont aussi signalés chez le champion d'Afrique en titre. À quelques jours de son match contre la Sierra Leone, l'Algérie a 3 de ses joueurs testés positifs. Il s'agit de Youssef Belaïli, de Mohamed Tougaï et de Youssine Benyanda. Tous devront observer la période de quarantaine exigée par le protocole sanitaire avant de rallier le regroupement de la sélection, précise la Fédération algérienne de football. Handball à présent. Le tirage au sort de la 25e Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes, entre-temps annulé, sera repris, a annoncé la Confédération africaine à travers un communiqué. Au regard de la pertinence des arguments annoncés après les recours déposés par l'Algérie et la Zambie, et dans l'optique de mieux appréhender la situation, la CAB a également décidé de reprogrammer cette CAN senior homme pour la période du 22 juin au 2 juillet 2022, toujours au Maroc. Et puis, du basketball pour finir, la NBA est avec vous Jean-Roger. Les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, les Knicks de New York ont battu Détroit 94-85. Charlotte a défait Indiana 116-108. Les Clippers de Los Angeles ont disposé de Boston 91-82. Chicago s'est imposé devant Atlanta 131-117. Memphis a pris le meilleur sur les Lakers de Los Angeles 104-99. Phoenix est venu à bout d'Oklahoma City 115-97. Et Utah Jazz a surclassé Portland 120 à 105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'approche des élections territoriales est marquée par de très fortes promesses d'emploi pour les jeunes. Une situation de déjà-vu pour ces derniers qui se plaignent de cette mauvaise pratique qui les oblige à se morfondre dans des métiers qui ne collent pas souvent avec leur profil. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
16,7%, c'est le taux de chômage enregistré par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie au dernier semestre de 2020. Une situation que les jeunes comme Djibril ressentent fortement.
Je fais partie des jeunes qui chôment et depuis les affrontements du mois de mars, on a tous entendu le président de la République faire des promesses d'emploi pour les jeunes et jusqu'à présent, l'évolution est lente et beaucoup d'entre nous sont découragés parce que les promesses en emploi plus finir commence à être un rituel à la limite de la décence. En tout cas, c'est difficile en tant que jeune de ne même plus savoir que faire ou ni quelle direction prendre. C'est vraiment, vraiment difficile.
Cette situation touche tous les profils et est accentuée par le clientélisme qui entoure les recrutements. C'est du moins l'avis d'Ngan Diop au chômage, comme plusieurs jeunes diplômés de son quartier.
Il fut un temps où on disait que les jeunes ne veulent pas travailler. Maintenant, c'est faux. Les jeunes Je vais même dire qu'il n'y a plus de sous-métiers. Quand tu vois un jeune qui se lève à 4h du matin, qui prend sa moto pour être livreur au tchak-tchak comme on dit au Sénégal, quand tu vois des jeunes avec des diplômes, master 2, master, je sais pas, doctorat, être manœuvre ou maçon ou plombier, ça m'attriste vraiment. Alors que tu vois dans les universités, que ce soit privé ou public, chaque année, il y a des milliers et des milliers de gens qui sortent avec la licence ou avec le master ou encore avec le doctorat.
Il y a quelques jours, le président Macky Sall a condamné les recrutements anarchiques qui obligent le ministère des Finances à payer des salaires à des entités employant du personnel n'ayant pas les capacités requises. Un fait confirmé par Yves Allais, président de l'Association nationale des diplômés sans emploi. Pour lui, ces mots dénoncés par le chef de l'État ne se limitent plus à l'administration publique.
Je pense que l'aveu a été fait récemment avec le chef de l'État, qui a été notre porte-parole, sans pour autant qu'on l'ait choisi. L'anarchie dans l'accès aux emplois, public comme privé, est devenue monnaie courante. Aujourd'hui, malheureusement, il ne suffit plus d'avoir un diplôme, il ne suffit plus d'avoir une bonne formation, mais il faudra avoir des liens de parenté ou des liens politico-politiques pour pouvoir espérer avoir un emploi. C'est malheureux et c'est regrettable. Aujourd'hui, c'est un sentiment de désespoir total qui anime la jeunesse sénégalaise.
Pour raviver la flamme de l'espoir au sein de cette jeunesse, le chef de l'État Macky Sall avait annoncé un fonds de 450 milliards sur 3 ans en faveur des besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Une mesure en cours d'exécution, mais que les jeunes ressentent peu à cause, disent-ils, des manœuvres politiciennes. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
En Guinée, le fait qui aura marqué 2021 est assurément le coup d'État militaire du 5 septembre contre le régime d'Alpha Condé. Le président déchu s'était fait réélire en 2020 pour un mandat de 3 ans au terme d'un processus contesté avec un bilan humain très lourd. Le film d'une année mouvementée avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
100 jours après le putsch, l'heure est au bilan de la transition. Aliou Bari, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques.
Après 3 mois, on est quand même dubitatif de voir que aujourd'hui, c'est pas les actions prioritaires du gouvernement. Personnellement, j'ai la nette impression que l'ensemble du gouvernement s'est inscrit dans une logique de durée pour poser des actes de développement au lieu de se soucier sur le retour à l'ordre constitutionnel qui est leur mission essentielle. Donc, il est temps que le CNRD mette en place un cadre de dialogue pour rappeler la société civile, les acteurs politiques, pour parler du retour à l'ordre constitutionnel. Négliger ces acteurs-là, je pense qu'ils risquent de recevoir un retour de bâton à partir du mois de mars.
L'absence d'un cadre de dialogue, voilà ce que regrette la classe politique guinéenne, même si elle félicite les nouvelles autorités pour avoir mis en place la cour de répression des infractions économiques et pour bien d'autres. Par ailleurs, les partis politiques proposent l'envoi à Conakry d'un médiateur de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale qui avait exprimé mercredi 8 septembre sa vive préoccupation face au coup de force en Guinée. À Conakry, les sanctions de la CEDEAO sont très commentées.
On ne peut pas continuer à arrêter les présents en Afrique francophone. Je soutiens mordicus sur cette position de la CEDEAO qui certainement pourra freiner d'autres pushistes en Afrique francophone.
La CEDEAO, il faut le reconnaître, est une institution qui va aussi être présente aux côtés de la Guinée dans le processus de transition qui va aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc ce qui est fait maintenant relève du classique.
Bon, je pense que la CEDEAO est tombée dans son propre piège. Parce que vous savez, tout récemment, il n'y a même pas un an, que nous avons organisé les élections du 18 octobre. Il y a eu ici des morts, la CEDEAO a été saisie, il y a eu à chaque fois des recours envers la CEDEAO. C'est la CEDEAO même qui est venue ici valider les élections en disant que c'est Dieu qui donne le pouvoir.
Le 5 septembre dernier, le président Alpha Condé est démis par un coup de force conduit par le colonel Mamadi Doumbouya.
L'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée.
La constitution et les institutions sont dissoutes et quelques jours après, plusieurs prisonniers politiques sont libérés. Des actes forts pour assurer se multiplient. La charte de la transition est dévoilée 3 semaines après le coup d'État. La transition se déroule en Guinée dans un contexte de pandémie. Lundi 20 décembre, le colonel Mamadi Doumbouya lance la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19 alors que le pays a franchi la barre des 30 000 cas positifs. En février 2021, 7 nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés dans le sud du pays. Au mois de juin, l'OMS déclare la fin de la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Direction la Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale a continué de polariser les attentions en 2021, mais il y a eu aussi les questions sécuritaires face au terrorisme rampant au Sahel et la cherté de la vie. Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan, nous en donne les détails.
Commençons d'abord au plan politique. Le fait majeur a été le retour le 17 juin dernier dans son pays de l'ancien président Laurent Gbagbo après 10 ans d'exil en Europe. La Cour pénale l'a acquitté des faits de crimes graves qui pesaient contre lui suite à la crise de post-électorale de 2010 et 2011. Un retour salué par les Ivoiriens.
En 2021, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le retour de Gbagbo. Ça nous a surpris. Et puis de deux, c'est bon pour la réconciliation et la paix du pays.
C'est aussi l'avis de Alassane Toukman.
Je m'appelle Alassane Toukman, le retour de Laurent Gbagbo. C'est un pas vers la réconciliation.
Le 27 juillet, le président Alassane Ouattara reçoit au palais présidentiel Laurent Gbagbo. Mi-octobre, Laurent Gbagbo tourne le dos au FPI, le Front populaire ivoirien, et crée un nouveau parti, le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il annonce un processus de divorce avec son épouse et compagnon politique Simone Gbagbo, qui n'a pas été associé au nouveau parti. La Côte d'Ivoire a aussi tenu le 16 mars 2021 des élections législatives qui ont vu la participation des grands partis politiques de l'opposition après une décennie de boycott. Ces élections remportées par le parti au pouvoir ont été émaillées de violence.
Ce que j'ai beaucoup remarqué, quand il y a les élections, en 2021 aussi, il y avait les élections, toujours, tu vois, en tant que oui, il y a des froufrous dans les coins, les jeunes, comment ils vont faire pour les mobiliser pour que la paix revienne totalement, pour que tout aille de l'avant pour nous là. C'est ça que nous tous en demandons. Et que ceux qui sont dans le gouvernement n'ont qu'à bien voir cette affaire-là, pour que s'il y a les élections, la paix n'a qu'à revenir. Parce que quand les élections viennent comme ça, nous tous, on a la peur. Okay.
Le 16 décembre, le dialogue politique entre le gouvernement et la classe politique a repris après un an d'interruption. Sur le plan sécuritaire, plusieurs attaques terroristes ont eu lieu sur le territoire ivoirien, principalement au nord. Le 12 juin, de présumés djihadistes ont attaqué une patrouille de l'armée ivoirienne dans le nord, faisant 3 morts. Avant cela, le 9 mars, 2 positions de l'armée ivoirienne à Kafolo et à Kolobougou avaient été prises pour cible par des hommes armés non identifiés dans cette région frontalière. frontalière du Burkina. Au niveau économique et social, les populations se plaignent de la cherté de la vie.
Moi, je m'appelle Yapi Yapo Odette. Je vais manger où? Vraiment, les choses ne marchent pas comme on veut. Et quand tu vas sur le marché, tout est devenu cher. Tout est dur. On ne comprend plus rien. Sinon, vraiment, ça fait que quand nous, on vend, on ne s'en sort pas. Et quand il y a du travail que les gens gagnent, nous qui vendons aussi, nous gagnons.
Gervais Akou est chef de famille.
Côté nourriture, aujourd'hui, il est tout augmenté. Que ce soit dans les marchés, dans les supermarchés, vraiment partout, c'est très difficile.
Il va de même pour le coût du transport, ajoute cet étudiant.
Je me nomme Prince. Le coût du transport varie. Tantôt, c'est élevé. Tantôt, c'est très, très élevé avec le prix des taxis. On a une cherté de vie vraiment qui coûte la peau des os à Abidjan. C'est vraiment difficile pour des étudiants comme nous.
La crise de la pandémie a continué d'affecter la Côte d'Ivoire. Mi-décembre, le pays a reçu 2 millions de doses de vaccins de l'Espagne contre le Covid-19. Selon le ministère ivoirien de la Santé, la Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, a atteint et cette année plus de 62 000 cas confirmés de coronavirus et plus de 706 morts. Au plan sportif, certaines actions ne sont pas passées inaperçues.
Je me nomme Prince. On a l'éclatement du comité de normalisation au sein de la FIF, de la Fédération Ivoirienne de Football. Ce comité a su révéler une énorme corruption au sein de cette organisation.
Bon, je peux me baser sur l'élimination des éléphants à la Coupe du Monde. Vraiment, j'ai pas été ravi de voir les éléphants à un tel niveau de jeu.
Ainsi s'achève ce magazine consacré aux faits marquants de l'année 2021 en Côte d'Ivoire. Delphine Bouise, Abidjan, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La société de covoiturage Uber s'est associée au groupe de véhicules électriques suédo-kenyan Opubas pour mettre en circulation 3000 motos électriques au Kenya et dans la région l'année prochaine. Cette initiative est susceptible de réduire considérablement la pollution de l'air car les mototaxis emploient des millions d'Africains à travers le continent. De Nairobi, le reportage de Juma Majanga. Le récit est signé Jacques Aristide.
Dans les rues de la capitale kenyane, son engin n'émet pas de bruit de moteur ni de fumée noirâtre. Josephat Mutiso transporte un passager sur sa moto électrique. Il fait partie des premiers chauffeurs de mototaxi de Nairobi à remplacer les deux roues à essence par l'électrique. Changement encouragé par le partenariat entre Uber et Opibus.
C'est très efficace. Cette moto est même beaucoup plus facile à conduire que l'autre. Vous voyez, vous n'avez pas tant de commandes. Vous avez juste l'accélérateur, pas d'embrayage. La seule chose à faire est de vous concentrer sur le frein avant et le frein arrière. Ce qui vous permet d'avoir encore plus de contrôle sur la moto. Et c'est assez léger, ça ne vibre pas. Même les clients préfèrent celle-ci.
Les mototaxis, également appelés Boda Boda, sont le moyen de transport de plus en plus commun dans les villes africaines. Le PNU, comprenait le programme des Nations Unies pour l'environnement, a donné le coup d'envoi en mars dernier au premier projet de motos électriques au Kenya, ouvrant ainsi la voie à l'option électrique en Afrique, une transition accélérée par le partenariat Uber-Opibus. Alex Pitkin est le directeur technique d'Opibus.
Nous sommes ravis d'exposer autant de personnes que possible à la nouvelle technologie que nous avons créée afin qu'ils sachent que c'est une option. Uber offre évidemment beaucoup de services Boda Boda, c'est notre client cible. Souvent, les conducteurs ne savent pas à quel point les motos électriques peuvent être bénéfiques en termes d'économie d'argent, de sécurité, d'économie de carburant, d'entretien. Vous savez, ce genre de choses. Et la longévité du véhicule, ils ne le savent pas non plus.
Les véhicules électriques gagnent du terrain aux quatre coins du globe pour lutter contre la pollution et protéger l'environnement. Lucie Mugala est ingénieure à Opibus.
Cibler l'Afrique et les pays africains fait partie de ce mouvement. Et à Opibus, c'est ce que nous faisons. Nous voulons avancer tous ensemble. Nous voulons diriger tous vers une énergie plus verte, une économie plus verte. Et nous ne pouvons le faire que si nous nous rassemblons tous et que si nous nous responsabilisons tous et que si nous renforçons les capacités localement. Cibler l'Afrique et les pays africains fait partie de ce mouvement. Et à Opibus, c'est ce que nous faisons. Nous voulons avancer tous ensemble. Nous nous dirigeons tous vers une énergie plus verte, une économie plus verte. Et nous ne pouvons le faire que si nous nous rassemblons tous, que si nous nous responsabilisons tous et que si nous renforçons les capacités localement.
D'après des experts, la transition planétaire vers le transport électrique est vitale.
Voilà, point final à cette édition matinale. Rosine Monezero, Michel Joseph et Kelvin Kafaoler se joignent à moi pour vous dire bonne journée.